Vous écoutez
RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le flop du gouvernement, du plan du gouvernement contre les déserts médicaux. Vous vous souvenez des annonces, au printemps, le gouvernement avait fait de grandes annonces pour inciter les médecins à aller dépanner à la campagne. Et bien c'est une info RMC ce matin, seulement 250 généralistes se sont portés volontaires. Question ce matin, l'Algérie va-t-elle libérer le journaliste français Christophe Glaise, condamné à de la prison depuis cet été? C'est aujourd'hui qu'il sera jugé. Et la police, carrément déployée ce matin à Nice pour la reprise de l'entraînement du club de foot après les incidents de dimanche.
Et encore une fois, c'était des grandes annonces et elles n'ont pas été suivies d'effet.
Oui, souvenez-vous de ce que voulait faire le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. C'était au mois d'avril. Le Premier ministre à l'époque, c'était François Bayrou.
Ainsi, chaque médecin généraliste ou spécialiste qui exerce dans un territoire bien pourvu devra consacrer un ou deux jours par semaine à des consultations dans les zones qui sont les plus en difficulté, que nous appelons les zones rouges.
Eh bien Solène Leroux, vous avez enquêté pour RMC, on est 7 mois après la grande annonce de ce dispositif. C'est une info RMC, donc ce matin, il y a seulement 250 médecins qui se sont portés volontaires, c'est pas beaucoup. Pourquoi ça marche pas?
Il y a en fait pas mal de freins techniques déjà. Chaque médecin doit pouvoir se connecter au dossier médical partagé pour que le suivi du patient soit assuré. Et même ces blocages sont de moins en moins, nombreux, nous dit le ministère de la Santé, ce n'est pas encore ça. L'accessibilité de la commune joue aussi. Écoutez, Jérémy Brigand, il est président d'une communauté de communes à 1 heure de Dijon.
Chez nous, on n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute. Donc ça veut dire qu'il y a 1 heure de route à faire le matin et le soir. Ça correspond à 2 heures de consultation en moins. Et les 200 euros offerts par l'État ne couvrent même pas les 7 consultations que le médecin ne peut pas assurer.
Résultat, aucun médecin ne s'est porté volontaire là-bas pour le moment. L'élu le comprend, d'autant plus que pendant ce temps, qui va soigner la patientèle habituelle des généralistes? Et puis, dans certaines zones, ce sont finalement les patients qui manquent. Pas parce qu'ils n'ont pas besoin de praticiens, non, plutôt parce que la prise de rendez-vous est complexe, ou alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant du dispositif. Un médecin près de chez vous compte bien renforcer son déploiement au fur et à mesure, même s'il n'y a aucun objectif chiffré par le ministère.
Enquête et information RMC signée ce matin Solène Leroux en plein débat budgétaire au Parlement. Celui de la Sécu est de retour à l'Assemblée depuis hier. Le temps presse et pourtant la coalition gouvernementale se fissure puisque les députés Horizon d'Edouard Philippe préviennent qu'ils ne le voteront pas ce texte en l'état. Et maintenant, que va-t-il se passer concernant le sort de la guerre en Ukraine? Américains et Russes n'ont pas réussi à s'entendre. Hier et même cette nuit sur le fameux plan de paix, il y avait des discussions à Moscou en présence de Vladimir Poutine, plan qui a été modifié ces derniers jours. C'est la question des territoires en Ukraine qui pose problème. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Le ping-pong continue donc puisque désormais les Américains sont censés discuter avec les Ukrainiens.
Écoutez, les émissaires de Donald Trump doivent rencontrer Volodymyr Zelensky aujourd'hui pour lui faire un compte-rendu de leur réunion au Kremlin. Une réunion qui a duré 5 heures et qui n'a pas permis de régler les sujets les plus sensibles, et notamment les concessions territoriales. Poutine n'est pas prêt à transiger. Il exige toujours l'annexion complète du Donbass, y compris les zones que son armée ne contrôle pas. Alors la question désormais, c'est de savoir si les Américains vont accentuer la pression sur le président ukrainien pour le forcer à faire des compromis. Trump, en tout cas, de son côté, semble un peu lassé par ces discussions qui n'avancent pas vraiment. Il est silencieux sur l'Ukraine depuis hier soir. Il n'a manifestement plus envie de s'impliquer directement. Il laisse la main à ses émissaires, ce qui lui permettra de s'attribuer le mérite d'un éventuel succès, tout en évitant d'être en première ligne en cas d'échec.
C'est un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Vous vous souvenez certainement de la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, le fameux vol MH370, il y a 11 ans. Eh bien, la Malaisie annonce ce matin que les recherches vont reprendre à la fin du mois. C'est aujourd'hui que doit être jugé en Algérie le journaliste français Christophe Glaise, journaliste condamné fin juin à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme et propagande nuisant à l'intérêt national. C'était dans le cadre d'un reportage, mais Cassandre Brault, dans la foulée de l'affaire Sansal, vous nous dites que ses proches ont bon espoir.
Oui, surtout après la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, même si l'avocat de Christophe Glaise précise que les deux affaires n'ont rien à voir. C'est un signal positif pour ses soutiens qui espèrent l'acquittement du journaliste. Thibaut Brutin est le directeur de Reporters sans frontières.
La communauté des gens qui est mobilisée pour Christophe, elle est vraiment confiante.
tout en étant très prudente. Et je crois que pour nous, là, le rapprochement qui est désormais peut-être possible entre la France et l'Algérie, du moins on peut le souhaiter, eh bien laisse imaginer qu'il peut y avoir une issue rapide, favorable à Christophe Glaize.
La justice algérienne reproche à Christophe Glaize d'avoir été en contact avec un dirigeant d'un club de foot, un homme par ailleurs responsable dans une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Dans ce procès en appel, les avocats de Christophe Glaize veulent démontrer le caractère professionnel de la démarche du journaliste français et que cette rencontre a été effectuée dans le cadre d'un reportage.
C'est l'avenir de Brandt qui va se jouer aujourd'hui au tribunal de Nanterre, un des derniers grands fabricants d'électroménager en France, placé en redressement judiciaire début octobre. Le gouvernement et les élus locaux multiplient les soutiens ces derniers jours au projet de SCOP, la reprise par les salariés, comme Duralex en fait l'année dernière, qui permettrait de sauver 300 des 700 emplois et les deux usines près de Vendôme et Orléans. Il y aura du changement au 1er janvier sur la route. Vous allez certainement voir apparaître des plaques d'immatriculation de couleur rose. Ce sera pour mieux identifier les voitures qui ont des plaques temporaires et c'est pour lutter en fait contre la fraude à l'immatriculation à Lougarnier.
Oui, des plaques roses pour faciliter le travail des forces de l'ordre en les rendant plus visibles dans le flot de la circulation. L'objectif, c'est de mieux contrôler la période de validité de ces plaques temporaires car certains continuent de rouler avec. Et s'ils prennent une amende, c'est le conducteur à qui ce même numéro de plaque a été attribué qui recevra la contravention. Alors en plus du rose pour attirer l'attention, le mois et l'année d'expiration de la plaque provisoire seront visibles sur la droite à la place de la région et du département. L'immatriculation provisoire concerne plus de 400 000 véhicules par an, notamment les véhicules neufs avant immatriculation définitive ou des véhicules achetés à l'étranger en attente d'une immatriculation française.
La saison de Formule 1 n'est toujours pas terminée, qu'on pense déjà à la prochaine avec la promotion du français Isaac Hadjar qui sera au volant d'une Red Bull l'année prochaine. Il va devenir en fait le coéquipier du néerlandais Max Verstappen, lui qui était jusque-là dans l'écurie parallèle Racing Bull, à seulement 21 ans et une seule saison en Formule 1. Rendez-vous compte, la police sera carrément déployée aujourd'hui à Nice pour la reprise de l'entraînement du club de foot. Après les incidents de dimanche, des joueurs frappés, le club qui est en pleine crise, l'entraîneur doit même annoncer son départ. Bref, reprise sous haute tension, Maxime Tillette.
Oui, deux joueurs vont manquer à l'appel, Jérémy Boga et Terem Moffi, en arrêt de travail après les coups reçus dans la nuit de dimanche à lundi. Une enquête pour violences aggravées a été ouverte par le parquet de Nice après leur plainte et celle de leur club. Ils ne veulent plus porter les couleurs niçoises et selon nos informations, l'entraîneur Francaise devrait lui annoncer ce matin son départ au groupe. Le directeur du centre de formation Julien Sablé assurerait l'intérim. Une réunion doit se tenir entre le staff, les dirigeants et les joueurs avant de retrouver les terrains en fin de matinée. Et certains d'entre eux, choqués, espèrent trouver une porte de sortie lors du mercato d'ici un mois. Ils pointent du doigt le dispositif de sécurité et le manque d'anticipation de leurs dirigeants. Autre conséquence, dès ce matin, la police nationale sera en renfort sur le boulevard qui jouxte le centre d'entraînement pour sécuriser l'arrivée des joueurs.
Puis tirage au sort dans la matinée 10h des groupes de la Coupe du Monde de rugby 2027. Avec 2 ans d'avance, on fait jamais comme les autres en rugby. La France est dans le groupe des favoris. On va donc s'éviter les grosses nations, mais il y a quand même un risque de tomber sur l'Australie, l'Écosse ou les Fidji.